Lizzie présente L'oiseau moqueur de Walter Tevis, lu par Éric Chantelose, avec la participation de Anne-Sophie Nalino. Pour Eleanora Walker. La vie intérieure de l'homme est un royaume vaste et disparate, qui ne se contente pas des stimulations provoquées par des arrangements de couleurs et de formes. Edward Hopper. Spofforth. Comme il remonte la 5e avenue à minuit, Spofforth se met à siffler. Il ignore le nom de l'air, et il ne s'en soucie guère. C'est un air compliqué, un air qu'il siffle souvent lorsqu'il est seul. Il est torse nu et ne porte pas de chaussures. Il a pour unique vêtement un pantalon kaki. Il sent sous ses pieds la surface usée des vieux pavés. Bien qu'il avance en plein milieu de la vaste avenue, il distingue les hautes herbes et livrées qui, de chaque côté, ont poussé aux endroits où les trottoirs, depuis longtemps fissurés et défoncés, attendent des réparations qui ne se feront jamais. De ces herbes, Spofforth entend s'élever un cœur d'insectes cliquetant et bourdonnant. Ces bruits le mettent mal à l'aise, comme toujours à cette époque de l'année, le printemps. Il enfonce ses larges mains dans les poches de son pantalon. Puis, embarrassé, il les retire et se met à courir à petite foulée. Immense, aérien, athlétique, en direction de la silhouette massive de l'Empire State Building. La porte d'accès au bâtiment avait des yeux et une voix. Son cerveau était celui d'un crétin, buté et insensible. « Fermé pour réparation », dit la voix à Spofforth qui approchait. « Ta gueule et ouvre », répliqua Spofforth. Puis il ajouta « Je suis Robert Spofforth, classe 9. »« Pardonnez-moi, monsieur », fit la porte. « Pouvez pas voir. »« Bon, ouvre. » »« Et dis à l'ascenseur express de descendre me prendre. » La porte resta un instant silencieuse. Puis elle déclara « L'ascenseur ne fonctionne pas, monsieur. »« Merde !» dit Spofforth. « Je vais monter à pied. » La porte s'ouvrit. Spofforth entra et traversa le hall obscur en direction des escaliers. Il coupa les circuits de douleur de ses jambes et de ses poumons et commença à monter. Il ne sifflait plus. À présent, son esprit sophistiqué était exclusivement fixé sur sa tentative annuelle. Lorsqu'il arriva au bord de la plateforme, dominant la ville depuis son point le plus élevé, Spofforth envoya le signal au nerf de ses jambes et aussitôt la douleur afflua. La souffrance le fit légèrement vaciller, seul dans la nuit noire, au-dessus d'un ciel sans lune et aux étoiles ternes. Le sol du parapet sur lequel il se tenait était lisse, lustré. Un jour, des années plus tôt, Spofforth avait failli glisser. Si seulement ça pouvait arriver près du bord, avait-il tout de suite pensé, déçu. Mais cela n'arriva pas. Il s'avança à quelques centimètres de l'extrémité de la plateforme et, sans l'intervention du moindre signal mental, sans volonté, sans désir que cela fût, ses jambes cessèrent de se mouvoir et il se retrouva, comme à chaque fois, immobilisé dans l'obscurité face à la 5e avenue, plus de 400 mètres au-dessus du sol qu'il appelait de ses vœux. Avec désespoir, pitoyable et inquiétant, il s'efforça de contraindre ses muscles à bouger, concentrant toute sa volonté sur le simple désir de tomber en avant, de faire basculer dans le vide, loin d'ici, loin de la vie, ce corps lourd et fort, ce corps fabriqué en usine. Il hurla intérieurement, exigeant le mouvement, se voyant tomber au ralenti, avec grâce, avec certitude, jusque sur le pavé, tout en bas, désirant cette chute. Mais son corps, il le savait, ne lui appartenait pas. Il avait été conçu par des êtres humains, et seul un être humain pouvait le faire mourir. Alors il hurla, à plein poumon, les bras écartés, criant sa rage sur la ville silencieuse. Il ne parvint pas à s'arracher au sol. Spofforth resta là, seul au sommet du plus haut bâtiment du monde, immobile, figé, durant le reste de cette nuit de juin. Il apercevait de temps à autre, en dessous de lui, à peine plus grand que des étoiles, les phares de quelques rares psibus qui parcouraient les avenues de la ville déserte. aucune lumière ne brillait dans les immeubles. Puis, tandis que le soleil commençait à illuminer le ciel de l'East River et de Brooklyn, où ne menait plus aucun pont, sa frustration l'abandonna petit à petit. Si on lui avait donné des conduits lacrymaux, il aurait à ce moment-là trouvé un certain soulagement dans les larmes, mais il ne pouvait pas pleurer. Le jour se levait. Il distinguait les silhouettes des petits bus vides. Il vit un petit véhicule de détection remonter la 3e avenue. Et soudain le soleil, pâle dans le ciel de juin, apparut comme une explosion au-dessus de Brooklyn désert et fit scintiller les eaux du fleuve, aussi fraîches qu'à l'aube des temps. Spofforce recula d'un pas, s'éloignant de la mort qu'il appelait et qu'il avait appelée pendant toute sa trop longue vie. La colère qu'il avait saisie se dissipa avec le soleil levant. Sa vie continuerait, et l'idée en était supportable. Spofforce descendit les escaliers rouillés, lentement d'abord. Mais lorsqu'il atteignit le hall, son pas s'était fait alerte, plein d'assurance, plein d'une vie artificielle. En quittant l'édifice, il dit « Ne fais pas réparer l'ascenseur, je préfère monter à pied. »« Bien, monsieur, » dit la porte. Dehors, le soleil brillait et il y avait quelques humains dans la rue. Une vieille femme noire vêtue d'une robe d'un bleu délavé effleura par inadvertance le coude de Spofforce et leva sur lui un regard absent. Quand elle vit la marque caractéristique du robot classe 9, elle détourna aussitôt les yeux et marmonna « Excusez-moi, excusez-moi, monsieur. » Elle resta à côté de lui, ne sachant que faire. Elle n'avait probablement encore jamais vu de classe 9 et avait dû seulement en entendre parler au début de sa formation. « Je vous en prie, » fit-il d'une voix douce. « Ce n'est rien. »« Merci, monsieur. » Elle fouilla dans la poche de sa robe et en tira un soport qu'elle avala. Puis elle fit demi-tour et s'éloigna d'une démarche traînante. Spofforce poursuivit son chemin sous la lumière du soleil, se dirigeant à pas vifs vers Washington Square et l'université de New York où il travaillait. Son corps ne se fatiguait jamais. Seul son esprit complexe, labyrinthique, lucide, saisissait le concept de fatigue. Et son esprit, lui, était fatigué. Toujours fatigué. Le cerveau métallique de Spofforce avait été fabriqué et son corps développé à partir de tissus vivants, à une époque très lointaine où l'ingénierie était en déclin, mais où la construction de robots était un art des plus sophistiqués. Cet art n'allait pas tarder à péricliter à son tour. Spofforce en avait été la plus belle réalisation. Il était le dernier d'une série de 100 robots nommés Classe 9, les créatures les plus puissantes et les plus intelligentes jamais conçues par l'homme. Spofforce était également le seul de la série à avoir été programmé pour rester en vie, en dépit de sa volonté. Il existait une technique permettant d'enregistrer chaque influx neural, chaque schéma de connaissance d'un cerveau humain adulte et de les transférer dans le cerveau métallique d'un robot. Cette technique n'avait été utilisée que pour les classes 9. Tous les robots de la série avaient été équipés d'une copie remaniée du cerveau vivant d'un même individu. C'était un ingénieur brillant et mélancolique du nom de Paisley, ce que d'ailleurs Spofforce ignorait. Le réseau d'informations et d'interconnexions dont était composé le cerveau de Paisley avait été enregistré sur des bandes magnétiques qui furent stockées dans une chambre forte à Cleveland. Personne ne sut jamais ce qu'il advint de Paisley après que son esprit eut été copié. Quand il avait 43 ans, on enregistra sa personnalité, son imagination et ses connaissances sur des bandes magnétiques. Ensuite, on l'oublia. Les bandes furent modifiées. On supprima autant de personnalités qu'il était possible de le faire sans endommager les fonctions utiles. Et ce qui était utile, dans un esprit, avait été déterminé par des ingénieurs moins imaginatifs que ne l'était Paisley lui-même. On effaça tout souvenir lié à sa vie antérieure, et donc une bonne partie de ses connaissances, encore qu'on eût laissé la syntaxe et le vocabulaire de la langue anglaise. Même ainsi amputé, ces bandes représentaient une copie presque parfaite de ce miracle de l'évolution qu'est le cerveau humain. Il resta néanmoins de Paisley quelques caractéristiques indésirables, la faculté de jouer du piano par exemple. Mais pour qu'elle pût s'exprimer, il aurait fallu un corps muni de bras et de jambes. Et lorsque le corps fut fabriqué, il n'existait plus de piano.